La loi exerce sa domination sur un homme tant qu'il vit. Romains 7, 1. Vous vivez jusqu'à ce que vous mortifiez votre nature pécheresse sur la croix intérieure du renoncement à soi. Rendons-nous donc la loi inopérante par la foi? Absolument pas, au contraire, nous établissons la loi. Romains 3, 31. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Galates 5, 18. Tant que vous n'êtes pas conduit par l'esprit, la loi dans votre cœur est votre pédagogue. Galates 3, 24. 26. Alors que le sacrifice du sang du Christ a rendu la loi mosaïque obsolète, la loi intérieure dans le cœur de chaque homme est toujours vivante, jamais annulée, et cette loi intérieure inclut le noyau moral de la loi mosaïque. Et cette loi intérieure par laquelle tous les hommes seront jugés, Romains 2, 14, 16, doit être obéie. Le Christ est mort sur la croix pour nous montrer par l'exemple jusqu'où doit aller l'obéissance qui nous est requise, car de même qu'il est mort sur la croix dans une obéissance aimante à Dieu, de même nous devons aussi obéir aux impulsions et aux commandements de Dieu, afin de crucifier notre nature pécheresse sur la croix intérieure du renoncement à soi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, je fais seulement exactement ce que le Père m'a ordonné de faire. Jean 14, 31. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Galates 5, 18. Être conduit par l'Esprit, c'est être guidé en tout dans ce qu'il faut dire et dans tout ce qu'il faut faire. Jusqu'à ce que nous ayons suffisamment progressé spirituellement pour être totalement contrôlés par l'Esprit de Dieu, la loi est notre pédagogue, Galates 3, 24, 25, que nous devons nous efforcer d'obéir tandis que nous cherchons Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Le Christ est la fin de la loi mosaïque comme moyen de justice pour quiconque croit, mais la loi qui est dans le cœur de chaque homme est toujours vivante et doit être observée. Les lois dans le cœur de chaque homme incluent le noyau moral de la loi mosaïque, à savoir, honore ta mère et ton père, aime ton prochain comme toi-même, ne vole pas, ne commets pas de meurtre, ne mens pas, ne commets pas d'adultère, ne convoite pas, le tout résumé dans le commandement de faire aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Tant que vous ne marchez pas sous le contrôle total de l'Esprit de Dieu, nous, gentils, sommes toujours tenus d'obéir à la loi intérieure, cette loi étant écrite dans le cœur de chaque homme pour excuser ou accuser leurs actions, et par laquelle Dieu jugera tous les hommes. Romains 2, 12, 16. Les ministres et pasteurs d'aujourd'hui nous disent à tort que la loi est morte, même en ce qui concerne l'obéissance qui nous est requise, que nous n'avons plus à l'observer, qu'à la place il nous suffit de croire en Jésus et de nous faire baptiser, excusant ainsi une vie de péché. En suivant cette logique, vous pouvez être un meurtrier récidiviste, un voleur à plein temps, un adultère invétéré, un violeur d'enfants, un menteur chronique, trompant votre prochain, haïssant votre mère et votre père, et restez chrétien tant que vous croyez en Jésus. Ne savez-vous pas, frère, car je parle à ceux qui connaissent la loi, que la loi exerce sa domination sur un homme tant qu'il vit. Romains 7, 1. Tant que vous ne perdez pas votre vie en crucifiant votre nature pécheresse, votre esprit charnel, et votre esprit mauvais, vous êtes encore sous la loi. Jusque-là, vous marchez encore dans une chair entravée. Jusque-là, les lois morales intérieures sont votre pédagogue. Jusqu'à ce que le Christ remplace votre nature, votre esprit et votre âme par les siens, de sorte que votre nature égoïste et pécheresse soit morte, vous êtes sous la loi écrite dans le cœur de chaque homme, qui inclut le noyau moral de la loi mosaïque. Lorsque vous avez été crucifié, de sorte que le Christ contrôle vos pensées, vos paroles et vos actes, alors la loi n'a plus de domination sur vous, parce que le « vous » égoïste est mort. Et alors vous avez accompli la loi ayant été pleinement établie dans votre cœur. Après avoir crucifié votre esprit et votre pensée égoïste sur la croix intérieure du renoncement à soi, vous recevez du Christ le fruit de l'esprit avec la mesure de foi qui libère de la loi. Et vous marchez alors dans la loi royale de l'amour, étant complètement guidé dans votre vie par Dieu, et étant totalement guidé par Dieu, faisant sa volonté sur la terre comme elle est faite au ciel, vous ne transgressez évidemment pas ses lois, vous dépassez même la loi en justice. Jusque-là, vous devez vous efforcer d'obéir aux lois morales de Dieu. Paul dit très clairement que si vous n'obéissez pas aux lois morales intérieures écrites dans le cœur de chaque homme, vous n'avez ni salut ni héritage dans le royaume de Dieu, mais, comme il convient aux saints, que l'immoralité sexuelle, toute impureté ou la convoitise ne soit même pas nommée parmi vous une seule fois. Ni turpitude, ni propos insensés, ni plaisanterie, qui ne conviennent pas, mais plutôt rendez grâce à Dieu. Car vous pouvez en être certain, aucun homme sexuellement immoral, ou impur, ou cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vaines paroles. Car c'est à cause de telles choses que la colère de Dieu vient sur ceux qui désobéissent. Éphésiens 5, 3, 6. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'immoralité sexuelle, y compris l'adultère et la fornication, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, y compris la convoitise, la sorcellerie, la haine, les disputes, la jalousie, la colère, l'ambition, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les orgies, la fête, et autres choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Galates 5, 19-21 Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les partenaires homosexuels passifs, ni les partenaires homosexuels dominants, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les injurieux, ni les tricheurs represseurs, ceux-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. 1 Cor 6, 9 dit « Car tous non-juifs qui continuent à pécher sans la loi périront aussi sans la loi, et tous juifs qui continuent à pécher sous la loi seront jugés par la loi. » Rome 2, 12 « Il est clair que les lois morales ne peuvent pas être mortes, puisque la désobéissance à la loi vous exclut du royaume et du salut. La loi n'est pas morte, et un croyant en Jésus n'est pas dispensé d'être exclu du ciel s'il continue de pécher au moment de sa mort. Les commandements moraux n'ont pas été abrogés par la foi en Jésus ni par la grâce. Nous devons nous efforcer d'obéir à tous les commandements moraux jusqu'à ce que nous soyons sous le contrôle total de l'Esprit de Dieu. Alors nous accomplissons la loi en marchant dans l'obéissance aux incitations de Dieu. Tant que vous n'avez pas été libéré de tout péché, tant que vous n'avez pas été transféré dans le royaume de Dieu, tant que vous n'êtes pas une créature entièrement nouvelle, tant que le Christ n'a pas été révélé en vous de sorte que vous contempliez son visage, tant que vous n'avez pas produit le fruit de l'Esprit, vous devez vous efforcer d'obéir à la loi dans le cœur de chaque homme, qui inclut le noyau moral de la loi mosaïque. J'ai du plaisir à faire ta volonté, ô mon Dieu, oui, ta loi est au-dedans de mon cœur. Psaume 40, oui, la loi intérieure dans le cœur de chaque homme nous fait nous sentir mal lorsque nous mentons ou volons. Cette loi inclut les lois morales externes, ne vole pas, ne mens pas, ne convoite pas, ne tue pas, ne commets pas d'adultère et toute immoralité sexuelle, honore tes parents, aime ton prochain comme toi-même, fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent, etc. Les lois morales de la loi intérieure dépassent les lois morales externes de Moïse, car comme Jésus l'a dit, il est venu accomplir la loi, puis il nous a dit comment elle devait être renforcée, ce que reflète la loi intérieure. On peut comprendre que cette loi intérieure renforcée a été violée chaque fois que vous manifestez un fruit de la chair, ce qui inclut l'immoralité sexuelle, l'impureté, la convoitise, la turpitude, les propos insensés, les plaisanteries, la grossièreté, l'adultère, le manque de maîtrise, la sorcellerie, la haine, les disputes, les jalousies, la rage, l'ambition égoïste, les divisions, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les orgies, la fête, les mauvaises pensées, les fornications, la méchanceté, la tromperie, le blasphème, l'orgueil, la colère. N'importe lequel de ces éléments disqualifie tout homme du ciel. Un homme innocent de tous les fruits de la chair ci-dessus est en pleine conformité avec les exigences rigides du salut énoncées dans les Écritures. Soyez parfait comme le Père est parfait, Matthieu 5, 48. Soyez juste comme il est juste, 1 Jean 3, 7, 10. Soyez miséricordieux comme il est miséricordieux, Luc 6, 36. Devenez pur comme il est pur, 1 Jean 3, 3. Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, 1 Pierre 1, 15. Marchez comme il a marché, 1 Jean 2. Chaque homme sera jugé par Dieu selon cette loi intérieure. Aucun homme n'est dispensé de cette loi pour quelque raison que ce soit, et elle n'a jamais été abrogée ni annulée. La loi exerce sa domination sur un homme tant qu'il vit. Rome 7, 1. La loi est notre pédagogue jusqu'à ce que nous ayons crucifié notre nature pécheresse sur la croix intérieure du renoncement à soi. Pour être libéré de cette loi intérieure, par laquelle tous les hommes seront jugés, vous devez vous soumettre à Dieu qui condamne les péchés dans votre chair, par des commandements adaptés aux circonstances de votre vie et que vous entendez en l'attendant. Ces commandements sont établis comme des lois supplémentaires dans votre cœur, où se trouvent toutes les lois que vous devez obéir et continuer d'obéir jusqu'à ce que vous soyez complètement crucifié, afin de marcher ensuite dans l'amour et la liberté sans aucune loi, parce que vous êtes continuellement guidé. Le problème, c'est que la chrétienté pense que le salut consiste à croire en Jésus et, de ce fait, à échapper à l'enfer après la mort, en laissant ses croyants encore captifs du péché jusqu'à la mort. Quand la chrétienté dit à ses croyants qui pêchent que la loi est morte, elle dit en réalité que, pour ses croyants, il n'y a pas de péché, pas de loi, pas de péché. Quel meilleur récit le diable aurait-il pu inventer ? La chrétienté a rejeté la loi derrière son dos, appelant le mal bien, appelant les méchants justes, tout en ignorant complètement les nombreuses exclusions, exigences et conditions qualificatives du salut énoncées dans la Bible. Cliquez sur chacune de ces exclusions, exigences et conditions qualificatives pour les lire vous-même. Elles sont indéniables et montrent clairement que la chrétienté est une coquille vide du christianisme originel des apôtres. De la parole du Seigneur au-dedans, es-tu d'accord avec ceux qui, dans leur arrogance, ont déclaré que Dieu excuse le mal chez les croyants ? Ce n'est pas juste, mais ils s'en moquent. J'ai eu à traiter avec des gens très méchants qui ont rejeté la loi derrière leur dos. Dans ma colère, je ne leur ai laissé aucune paix. La légèreté d'esprit pousse un homme à rejeter la loi. Ils ont pris la Bible et en ont fait une chose impie, utilisée pour justifier leur immersion dans le péché. C'est notre crainte qui a été rejetée. La nouvelle loi est devenue l'injustice. La chrétienté n'a aucune idée de ce que je suis ni de ce que je défends. Tout le monde s'attend à ce que Jésus soit leur excuse. Sans obéissance, vous n'avez rien. Désolé, il n'y a pas de joke dans le camp. La retenue du péché ne suffit pas, le salut, c'est être libéré même du désir de vos péchés. Seul un cœur purgé du péché est acceptable à Dieu. La loi est dans le cœur de chaque homme, et il faut y obéir, la loi suprême, jamais annulée. Vous ne pouvez pas transgresser les commandements moraux et être chrétien. Vous devez avoir du dévouement pour la loi qui est dans le cœur de chaque homme, vous devez écouter et vous devez obéir. Soyez sur vos gardes en tout temps afin que vos paroles ne reflètent pas les fruits de la chair. Le salut, c'est être libéré même du désir de péché, le péché est toujours le péché, et la loi qui définit le péché est toujours la loi. Ne vous laissez pas duper par la chrétienté qui vous dit que, parce que vous croyez en Jésus, vous êtes exempté de la loi et non tenu responsable de vos péchés. Car chaque homme est jugé selon ses paroles et ses actes, une vie de péché ne sera pas passée sous silence parce que vous croyez en Jésus, allez aux offices d'une secte et lisez la Bible. Car vous pouvez en être certain, aucun homme sexuellement immoral, ou impur, ou cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu, que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car c'est à cause de telles choses que la colère de Dieu vient sur ceux qui désobéissent. Éphésiens 5:5-6, l'idolâtrie s'est convoitée quoi que ce soit. Les ministres d'aujourd'hui appellent le fait d'essayer d'observer la loi des œuvres et nous disent « N'essayez même pas d'obéir à la loi, bien sûr, sauf pour nous donner vos dîmes, sinon vous perdrez votre salut par la foi. » C'est un mensonge colossal qui mène leurs adeptes à la destruction, leur promettant la liberté, comme le faisaient ces enseignants de corruption au temps de Pierre. Les œuvres de la loi, ce sont l'offrande de céréales, l'offrande d'agneau, l'offrande de taureau, les ablutions, le fait de ne pas manger certains aliments, la circoncision, la dîme, les sabbats, la célébration de jours, les fêtes, etc. Mais cesser l'adultère n'est pas une œuvre, c'est une obéissance morale. Oui, il y a une liberté vis-à-vis de la loi, mais seulement après qu'un homme a crucifié sa nature pécheresse sur la croix intérieure du renoncement à soi, seulement après qu'un homme a attendu le Seigneur. Veillez, écoutez pour entendre l'Esprit de Dieu lui enseigner par la grâce à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et comment vivre sobrement, justement et pieusement dans le monde présent, jusqu'à ce qu'il soit racheté de tout péché et purifié, et seulement après que les pensées, les paroles et les actes d'un homme sont totalement cons. Jusque-là, la loi est votre pédagogue, qui met en évidence vos manquements et vous motive à aller davantage vers Dieu pour recevoir sa grâce qui purifie le cœur et l'âme. Vous n'êtes libéré de la loi du péché et de la mort que lorsque vous êtes contrôlé par la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus, Romains 8:2, lorsque les commandements de l'Esprit vous sont donnés continuellement, contrôlant chacune de vos pensées, paroles et actions, vous marchez dans l'obéissance à l'Esprit, et non selon les désirs charnels de votre esprit charnel et de votre imagination. Romains 8:1 de la parole du Seigneur au-dedans, il n'y a pas de loi quand vous êtes sous le contrôle complet de l'Esprit. Vous marchez dans l'amour, dans une obéissance suscitée, vous ne marchez pas dans une chair entravée. Les chrétiens ont perdu le don de la vie pour se gouverner eux-mêmes. Margaret Fox répondit vigoureusement aux ministres et enseignants de corruption de son époque, qui enseignaient que toute la loi de Dieu avait été annulée et remplacée par la simple croyance en Jésus. Vous qui êtes dans vos appréhensions charnelles de Dieu, vous êtes dans le monde sans Dieu. Vous êtes vivant sans la loi, et vous n'en êtes pas encore venu à connaître la loi, et vous êtes mort dans les péchés et les offenses. Vous qui vivez dans les plaisirs, vous êtes mort tout en vivant. Vous vivez pour le péché et vous êtes ainsi libre de la justice. La loi, qui est sainte, juste et bonne, vous mettra en pièces. Vous n'êtes pas encore venu à connaître la loi, ni ce qui est licite, ce par quoi tout se passe avant de connaître la liberté des fils de Dieu, loi qui abat toutes vos appréhensions charnelles de Dieu. Ô blasphémateur, dis-tu qu'il n'existe pas de licite et d'illicite, de piété ou d'impiété? Voudrais-tu ravager les Écritures et rendre vaine la loi juste de Dieu qui saisit le transgresseur? Voudrais-tu fouler aux pieds le sang de la nouvelle alliance et le tenir pour une chose profane? Ô, le jour de la vengeance vient sur toi. Le Seigneur Dieu est revêtu de vengeance contre toi et contre tous ceux qui te ressemblent. Vous qui êtes assis à la table des démons êtes exclus de la liberté des fils de Dieu et ne connaissez pas l'état par lequel Paul est passé. Quand vous le connaîtrez, ce sera pour vous mort et destruction. Vous en serez éternellement témoin, avant même de venir à connaître le Dieu vivant. On demanda à Jésus, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus répondit, « Garde les commandements, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il énuméra le noyau moral de la loi qui est dans le cœur de chaque homme. Puis il lui dit qu'il devait vendre ses biens, donner aux pauvres, prendre sa croix et le suivre. Alors, où est le salut instantané en disant une prière, en se faisant mouiller, et en mangeant du jus de raisin et du pain? C'est en vain qu'ils m'adorent, ils enseignent des commandements d'hommes. Matthieu 15:9, Marc 7:7. Non seulement nous devons garder les commandements moraux de la loi, mais nous devons suivre Jésus. Comment suivons-nous Jésus? Nous l'écoutons en silence et nous lui obéissons, lui qui nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et comment vivre sobrement, justement et pieusement dans le monde présent, afin qu'il nous rachète de toute iniquité et nous purifie pour devenir son peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres, des bonnes œuvres dirigées par lui pour sa gloire. On ne peut pas contourner cela. Jésus nous a dit que pour être sauvé, il faut garder le noyau moral des commandements, prendre sa croix et le suivre. Le suivre, c'est obéir aux commandements que vous l'entendez vous dire, tandis que vous l'attendez, que vous veillez sur lui et que vous l'écoutez dans un humble silence. Vous devez l'attendre chaque jour, c'est vous renier vous-même et prendre votre croix chaque jour. Les paroles que vous l'entendez vous dire vous communiquent la vie de Dieu. Jean 6, 63. Les commandements que vous l'entendez vous dire doivent être gardés, mémorisés et obéis. S'il vous ordonne de renoncer à quelque chose dans votre vie, vous devez continuer d'y renoncer. Les commandements auxquels vous obéissez et que vous gardez sont alors écrits dans votre cœur et votre esprit, venant compléter le noyau moral de la loi déjà dans le cœur de chaque homme. Ainsi l'Écriture est accomplie, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leurs esprits compréhension intérieure. Hébreux 10, 16. Certains prédicateurs de la chrétienté disent « Il y a toujours le péché, mais si vous croyez en Jésus, vous êtes excusés du péché par la grâce. » Ce n'est qu'un autre mensonge et honteux qui ignore. Aucun homme sexuellement immoral, ou impur ou cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. F5, 5, 6. Ce mensonge s'insinuait déjà dans l'Église primitive il y a 2000 ans. Lorsque Jude écrivit, il s'est glissé parmi vous certains hommes à votre insu désignés depuis longtemps pour ce jugement des hommes impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et en débauche, en licence d'immoralité. Jude 1, 4. Dieu juge chaque homme selon ses paroles et ses actes. Chaque homme signifie sans exception chaque homme, même ceux qui croient en Jésus. Et je vis les morts, petits et grands, se tenir devant Dieu, et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux, et chaque homme fut jugé selon ses œuvres. Apes 20, 12, 13. Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Matt 16, 27. Je suis celui qui sonde les esprits et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Apes 2, 23. Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve l'esprit, et je rends à chaque homme selon ses voies, et selon le fruit de ses actes œuvres. Jer 17 dit, « Ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres ?» Pro 24, 12. Le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses actes. Rome 2, 5. Si l'œuvre de l'homme sera révélée. Car le jour du Seigneur la fera connaître, parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera et testera l'œuvre de chaque homme, de quelle nature elle est. 1 Cor 3, 13. Car chacun sera salé par le feu. Marc 9, 49. Si vous pensez pouvoir rester voleur et obtenir le salut, vous êtes gravement trompé. Si vous pensez pouvoir mentir ou rester une personne égoïste dans votre chair, n'aimant pas votre prochain autant que vous vous aimez vous-même, vous êtes gravement trompé. La loi définit le péché comme ce que nous devons cesser, et si nous ne cessons pas, Jésus a dit, « en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. » Jean 8, 34. Si vous êtes esclave du péché, Jésus ne peut pas être votre Seigneur. Jésus lui-même a dit, « Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. » Luc 16, 13. La loi nous rappelle le péché et que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour pouvoir cesser complètement de pécher. Suivre les commandements moraux de la loi, du mieux que nous pouvons, est non seulement requis, mais c'est aussi la preuve de notre repentance sincère pour nos péchés passés. La crainte du Seigneur, c'est haïr le mal. Que quiconque invoque le nom du Christ se dit chrétien, se détourne de l'iniquité, illégalité, péché. 2 Tim 2, 19. Le but de ce site web est de vous montrer comment obéir à tous les commandements de Dieu et comment recevoir la puissance transformatrice de Dieu pour devenir pur et libre du péché. Ne savez-vous pas que vous êtes les esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Rome 6, 16. Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. » Jean 8, 34. Quiconque commet le péché pratique l'illégalité, car le péché est l'illégalité. 1 Jean 3, 4. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Luc 6, 46. Jésus a dit qu'il reniera tous ceux qui pratiquent l'illégalité, iniquité, péché, même ceux qui prétendent être des chrétiens sauvés. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et en ton nom chassé des démons, et en ton nom fait beaucoup de miracles, et alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, péché, illégalité ou méchanceté. » Matthieu 7:21-23 de la parole du Seigneur au-dedans, « Ils ont ignoré mes commandements de se détourner du péché, ils ne voudraient aucune loi. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils retireront de son royaume toutes les causes de chute, ainsi que ceux qui pratiquent le péché ou l'illégalité, et ils les jetteront dans une fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Matthieu 13:41-42 De même, vous aussi, vous paraissez juste au dehors devant les hommes, mais au dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité péché. Matthieu 23:28 Chers lecteurs, le Christ est venu et a renforcé la loi, la rendant encore plus difficile à observer. Il a changé, œil pour œil, en « tend l'autre joue », aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Il a fait de l'adultère non seulement l'acte, mais aussi la pensée dans le cœur. Il a fait du meurtre non seulement l'acte, mais aussi la colère et la haine dans votre cœur. Il nous a dit de ne pas rendre injure pour injure ni insulte pour insulte. Il nous a dit que la simple retenue du péché ne suffisait pas, mais que nous étions souillés par ce qui était dans nos cœurs. Ainsi nos cœurs doivent être purifiés du désir ou de l'inclination au péché. Il a dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les publicains ne font-ils pas de même? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les publicains ou les voleurs ne font-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. » Matthieu 5:43-48 Or Jésus est juste. Il n'aurait pas accru ses commandements pour nous s'il n'y avait pas un moyen de les observer. Le moyen, c'est d'aller à lui, d'attendre et de veiller en silence, de l'écouter, de l'entendre et de lui obéir, la repentance, la croix intérieure du renoncement à soi. Vos âmes sont purifiées en obéissant à la vérité par l'Esprit. 1 Pierre 1:22 Écoutez et obéissez à ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple, et marchez entièrement dans les voies que je vous commande. Jer 7:23 Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Gal 5:18 Tant que vous n'êtes pas conduit par l'Esprit, la loi intérieure est votre pédagogue. Il Jésus est devenu l'auteur et la source du salut éternel pour tous ceux qui l'écoutent et lui obéissent. Hébreux 5:9 Qu'en est-il des parties de la loi telles que, ne mangez pas de porc ou de lièvre, ou apportez vos dîmes, ou accomplissez vos serments envers Dieu. Ces parties de la loi sont mortes à moins que vous ne soyez un juif qui pratiquait la loi mosaïque et se soit récemment tourné vers le christianisme, astérisque car elles n'étaient que des ombres, des cérémonies et des formes. Ces parties de la loi sont mortes pour nous gentils, mais la loi intérieure, la loi qui est écrite dans le cœur de chaque homme, sa conscience, est vivante et doit être obéie. Et la loi intérieure inclut les parties morales de la loi extérieure. Les lois morales de la loi intérieure sont notre pédagogue, Gal 3:24-25, jusqu'à ce que nous ayons suffisamment progressé spirituellement pour être totalement conduits par l'Esprit de Dieu. Ce n'est que si vous êtes conduits par l'Esprit que vous n'êtes pas sous la loi, Gal 5:18. Astérisque si vous êtes un juif qui pratiquait la loi mosaïque et s'est récemment tourné vers le christianisme, il vous est permis, sans y être obligé, de continuer cette pratique jusqu'à ce que vous ayez reçu de l'Esprit la foi qu'une partie de la loi ne doit pas vous gouverner, comme ce fut le cas pour Pierre. Car si vous pensez que c'est un péché de violer un quelconque aspect de la loi, vous êtes condamné si vous le violez. Ceux qui avaient été juifs étaient autorisés à observer les commandements de la loi concernant les jours, les fêtes et la nourriture, tandis que ceux qui avaient été gentils étaient enseignés à n'observer aucun jour, semaine, mois, etc. ni à pratiquer aucune œuvre de la loi telle que la circoncision, et ils ne devaient pas se juger les uns les autres au sujet de la nourriture, de la boisson, des fêtes ou des jours de sabbat. Paul écrivit, « Que chacun soit pleinement convaincu dans son propre esprit, ce qui signifie que ces choses relevaient de la conscience individuelle et que la conscience est susceptible d'être instruite par l'esprit. » Comme tous les hommes, un juif est libéré de l'ensemble de la loi lorsqu'il a été crucifié et qu'il est mort à la loi par la loi. La règle dort ainsi en toute chose, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7:12, Romains 13:8-10, Galates 5:14, Lev 19:18 et forcez-vous toujours d'y obéir. Oubliez la nourriture, la boisson, les jours, les lavages corrects, car du dedans du cœur des hommes sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, les convoitises, la méchanceté, la tromperie, le manque de maîtrise, un mauvais œil, l'envie, le blasphème, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans de l'homme et le souillent. Marc 7, 21-23. Remarquez, tant que votre cœur n'a pas été purifié, vous êtes souillé, une bête vorace qui se sert elle-même plutôt que les autres. Le seul chemin du salut est de crucifier votre nature égoïste et pécheresse sur la croix intérieure du renoncement à soi. Par l'esprit, vous devez mortifier, mettre à mort les actes du corps qui relèvent de la vie terrestre, la fornication, l'impureté, les affections déréglées, les mauvaises convoitises de la chair et la convoitise qui est l'idolâtrie. Rome 8, 13, Col 3, 5. Le salut, c'est être délivré de tout péché. Alors, et seulement alors, vous marchez libre de la loi du péché et de la mort. Le salut, c'est vaincre le monde, le péché et le diable, telle est la victoire de la vraie foi. Mais la seule victoire que les croyants de la chrétienté ont connue, c'est la victoire sur leur conscience et leur culpabilité d'avoir commis le péché, leur dureté de cœur, leur péché continu, tout en présumant être des croyants justes en Jésus, finis par crucifier Jésus au-dedans d'eux-mêmes. Comme William Penn l'a dit dans No Cross, No Crown, comme Judas, les chrétiens modernes l'appellent maître, mais s'unissent au mal du monde pour le trahir, et ils l'embrassent et l'étreignent comme des croyants superficiels et fins, puis ils le vendent, comme Judas, pour satisfaire leur passion indulgente. Ainsi ils le font servir avec leur péché et pour leur péché aussi. Croyez le véritable évangile, vous pouvez être totalement libéré du péché par les opérations miséricordieuses de la grâce qui circoncit votre cœur. Mais vous ne pouvez pas simplement prier pour que cela arrive, vous devez chercher le royaume de Dieu et sa justice comme la plus haute priorité de votre vie. Et la seule chose nécessaire est de vous asseoir aux pieds de Jésus et d'écouter ses enseignements. Il vous montrera les péchés secrets de votre cœur, et par votre obéissance à ses commandements, il vous libérera de vos péchés, un à un, jusqu'à ce qu'enfin vous soyez purs et aptes à l'union avec lui dans le royaume de Dieu. Les mensonges sur la justice, à moins que votre justice ne surpasse la justice des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez en aucun cas dans le royaume des cieux. Matt 5, 20. Jésus nous a dit en quoi notre justice devait dépasser celle des pharisiens. Éviter de commettre l'adultère ne suffit pas, nous ne devons même pas regarder une femme avec convoitise, éviter le meurtre ne suffit pas, nous ne devons pas nourrir de colère dans nos cœurs, il ne suffit pas d'aimer notre frère, nous aimons même nos ennemis, nous devons bénir ceux qui nous maudissent. Ces exigences de justice dépassent la simple retenue dans la conduite, elles exigent un cœur changé, un cœur purifié. Écrivant à ceux qui péchaient encore dans les églises, Jacques a dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, gens irrésolus, Jacques 4, 8. Tout homme qui a cette espérance en lui se purifie, comme lui Jésus est pur. Les ministres d'aujourd'hui disent, parce que vous avez la foi en Christ, même si vous continuez à pécher, vous êtes juste et sauvé. Celui qui dit aux méchants à ceux qui pêchent encore, tu es juste, le peuple maudira, les nations laboreront. Pro 24, 24. Vous finirez par maudire tous ceux qui ont menti en disant qu'avec la croyance en Jésus vous êtes juste, tout en péchant encore. Vous dites que vous avez la foi, mais où est la preuve de votre foi en Christ? Obéissez-vous à sa loi, avez-vous produit le fruit de l'Esprit de Dieu? Car le Christ a dit que ses vrais disciples produiraient du fruit, beaucoup de fruits. En produisant beaucoup de fruits, mon Père est honoré et glorifié, et vous montrez que vous êtes vraiment mes disciples vrais suiveurs. Jean 15, 8. Et le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, le calme et la confiance assurée pour toujours, la patience y compris la longanimité, la fermeté et la persévérance, la bonté incluant la moralité et l'intégrité, la bienveillance, la foi, la douceur incluant la mansuétude et l'humilité, et la maîtrise de soi, domination des appétits sensuels, des passions et des désirs. Galates 5, 22-23. Donc à moins que vous n'ayez le fruit de l'esprit, Jésus dit que vous n'êtes pas un vrai disciple, et toute branche sans fruit sera jetée au feu et brûlée. Son fruit et sa justice sont des dons de grâce au fil du temps, tandis que vous cherchez sa justice. Cela n'arrive pas en disant que vous croyez en Jésus, vous devez obéir à ses commandements. Pour produire du fruit, nous devons nous efforcer d'obéir aux parties de la loi qui concernent la moralité, l'amour, la miséricorde et la foi. Toutes les autres lois morales importantes découlant des commandements les plus importants, aime Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Par exemple, le vol est couvert par « aime ton prochain », car si tu l'aimes comme toi-même, tu ne le voleras pas, tu ne lui mentiras pas, tu ne l'utiliseras pas sexuellement, tu ne l'envieras pas, tu ne le haïras pas, tu ne comploteras pas contre lui, tu ne seras pas en colère contre lui. L'amour est l'opposé de l'égoïsme. Comme le dit Jacques, si vous aimez votre prochain comme vous-même, vous faites bien, c'est la loi royale. Jacques II, puis ses guides aveugles, se faisant passer pour des ministres du Christ, vous disent que vous avez la justice du Christ, donc vous n'avez rien à faire. Ils disent de vous appuyer sur la « justice imputée du Christ à notre égard sur la base de notre foi », comme la foi était avec Abraham, Rome 4, 3-11. La foi d'Abraham n'était pas une simple croyance en Dieu, Abraham a obéi à la voix de Dieu, Gênesis 22, 18, 26-5. La foi d'Abraham consistait à écouter les paroles de Dieu, à les entendre et ensuite à leur obéir. Sa foi a produit des œuvres d'obéissance qui prouvaient son amour pour Dieu. Entendre les paroles prononcées de Dieu et leur obéir est la vraie foi, celle que les apôtres ont aussi prêchée. Dieu a aussi ordonné à Abraham de marcher devant moi et d'être parfait, Gênesis 17:1. Comme Abraham a exercé sa foi pour être circoncis, comme ordonné, de même nous devons recevoir la circoncision spirituelle, notre cœur circoncis du péché. Comme Abraham a exercé sa foi pour quitter sa maison pour une nouvelle terre, comme ordonné, de même nous devons renoncer au monde entier pour entrer dans le royaume de Dieu. Comme Abraham a exercé sa foi, prêt à sacrifier Isaac, comme ordonné, de même nous devons crucifier notre vie égoïste pour sauver la vie de notre âme. Abraham a patiemment persévéré dans l'obéissance au commandement de Dieu avant d'obtenir la promesse. Hébreux 6:15. Si Abraham n'avait pas obéi à la voix de Dieu dans tout ce qui précède, vous liriez l'histoire d'une autre personne au lieu d'Abraham. Abraham s'est exposé pour entendre les commandements de Dieu. Comme Abraham, nous aussi devons nous exposer pour entendre les commandements de Dieu, l'entendre, lui obéir, et continuer ainsi avec une persévérance patiente jusqu'à la fin. Sinon nous ne deviendrons pas libres du péché, nous n'atteindrons pas la justice, et nous serons exclus du ciel lorsque nous mourrons. La justice vient par la foi en Jésus, mais la foi qui impute la justice n'est que la foi qui libère de la loi. Cette mesure de foi qui libère est reçue avec le fruit de l'Esprit, et cela n'arrive qu'après que vous avez crucifié vos convoitises et vos affections sur la croix intérieure du renoncement à soi, et cela n'est ni instantané ni facile à accomplir. Paul clarifie, « Car nous, par l'Esprit, par la foi, nous attendons patiemment l'espérance de la justice. » Galates 5:5 Paul ajoute, « Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance qui mène à la justice. » Rome 6, 16, 19 « Obéissance à quoi ? Aux commandements et aux enseignements que nous entendons du Seigneur pendant que nous l'attendons. » Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu 5, 6 « Comment quelqu'un pourrait-il avoir faim et soif de justice s'il est instantanément juste en croyant simplement en Jésus ?» Jésus a encore dit, « Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Matthieu 6, 33 « Nous devons chercher la justice de Dieu comme la plus haute priorité de notre vie, plus que la nourriture et les vêtements. » Paul encore, « Réveillez-vous à la justice et ne péchez pas, car certains n'ont pas la connaissance de Dieu. Je dis ceci à votre honte. » 1 Cor 15, 34 « Quiconque pense pouvoir continuer à pécher et être juste n'a aucune connaissance de Dieu et doit avoir honte. » Nous ne sommes manifestement pas instantanément justes parce que nous croyons ou avons la foi. Autrement, on ne nous dirait pas d'avoir faim et soif de justice, de chercher la justice comme la plus haute priorité de notre vie, d'attendre la justice, que l'obéissance mène à la justice, d'espérer la justice. De nous réveiller à la justice et de cesser de pécher. Nous devons aller à lui pour recevoir sa purification grâce pour devenir juste, dont le fruit est la paix, et l'effet de la justice est le calme et une confiance assurée pour toujours. Ésaïe 32, 17 étant justifié gratuitement par sa grâce par la rédemption qui est en Christ Jésus. Rome 3, 24 Mais cet accès à Dieu ne nous rend pas instantanément justifiés, car nous cherchons à être justifiés en Christ. Galates 2, 17 Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'en toute nation celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. Actes 10, 34-35 Vous pouvez être sûr qu'aucun fornicateur, ni impur, ni cupide n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles vaines, car à cause de ces choses la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. F 5, 5-6 Tous les gens impurs, immoraux ou cupides seront exclus du ciel. Paul et Jean nous avertissent tous deux de ne pas être trompés, que personne ne vous trompe par des paroles vaines, car à cause de ces choses la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. F 5, 5-6 Vous devez devenir purs pour avoir un héritage dans le royaume de Dieu et de Christ. Petits enfants, que personne ne vous trompe. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. 1 Jean 3-7 Vous n'êtes pas juste à moins de pratiquer la justice comme Jésus a pratiqué la justice. Jésus ne parlait, ne jugeait et n'agissait que selon ce que Dieu lui inspirait et lui ordonnait. Pour pratiquer la justice, nous aussi devons être capables de ne dire que ce que nous l'entendons nous ordonner de dire, et de ne faire que ce que Dieu nous ordonne de faire. Cette capacité ne vient qu'après que nous avons crucifié notre esprit égoïste, puisque le péché a été détruit par l'esprit en portant la croix intérieure du renoncement à soi. Alors nous marchons comme lui a marché et nous sommes dans le monde comme il était, avec perfection, pureté et sainteté. Les trompeurs vous disent que vous n'avez pas besoin d'être pur, les trompeurs vous disent que vous êtes juste tout en péchant. Le christianisme a été pris en main par des trompeurs, qui vous disent que le péché est normal, acceptable, négligé par Dieu, annulé, etc. Vous êtes les esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance qui mène à la justice. Rome 6, 16 remarquez, l'obéissance mène à la justice. D'abord il faut obéir, avec le temps, l'obéissance produit la justice. Comme vous avez autrefois livré votre corps à l'esclavage de l'impureté et du mal en mal, livrez maintenant votre corps à l'esclavage de la justice qui aboutit à la sainteté. Rome 6, 19. Voir la note de bas de page de Rome 3, 22 pour mieux comprendre la justice imputée. Les mensonges sur les œuvres, il est vrai que les œuvres de la loi ne comptent pour rien. Les œuvres de la loi sont l'offrande de céréales, l'offrande d'agneaux, l'offrande de taureaux, les ablutions, le fait de ne pas manger certains aliments, la circoncision, la dîme, les sabbats, la célébration de jours, les fêtes, etc. Ce sont des œuvres mortes de la loi, décidées quant à leur accomplissement par l'esprit charnel et la volonté de l'homme. Mais qu'en est-il des commandements moraux de la loi ? Aime ton prochain comme toi-même, et ne vole pas, et ne commets pas d'adultère, et ne mens pas, et ne convoite pas, et ne commets pas de meurtre, et honore ton père et ta mère. Il est clair qu'observer ces commandements n'est pas des œuvres de la loi. Une œuvre n'est pas le fait de ne pas tuer aujourd'hui, ou de ne pas commettre l'adultère ce soir, ou de ne pas mentir cet après-midi, ou d'aimer ton prochain aujourd'hui, ou de prendre une heure pour aimer Dieu, etc. Pire encore, puisque « quiconque d'entre vous cherche à être justifié par la loi est déchu de la grâce, et Christ ne vous sert plus à rien », Galates 5, 4. Alors, en suivant cette logique défectueuse, selon laquelle observer les commandements moraux de la loi serait des œuvres de la loi, si vous décidez de ne pas voler, vous avez perdu votre salut par la grâce et la foi en Jésus. La logique tordue de la chrétienté du simple foi en Jésus, qui ignore les commandements moraux et classe leur observation parmi les œuvres, fait de Jésus l'auteur de l'illégalité, elle fait du sang de Jésus une chose profane, une excuse pour persévérer dans le péché et ignorer toutes les lois, un permis d'immoralité, et en enseignant cette doctrine, les guides aveugles de la chrétienté ont jeté la loi derrière leur dos pour conduire des milliards de leurs croyants dans l'abîme de la destruction. De la parole du Seigneur au-dedans, ils chancellent vers l'abattoir et ivres de leur convoitise, passion, orgueil et plaisir. C'est une erreur doctrinale d'une ampleur colossale, c'est une rupture de l'alliance de Dieu. Ces commandements constituent le cœur moral de la loi mosaïque et sont inclus dans la loi écrite sur le cœur de chaque homme, dont la conscience rend témoignage, tandis que leurs pensées les accusent ou les excusent, Rome 2, 8, 16. Ces commandements n'ont pas été abrogés et doivent être obéis par quiconque veut plaire à Dieu. Ne savez-vous pas, frère, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi a autorité sur l'homme aussi longtemps qu'il vit, Rome 7, 1. Si le sacrifice sanglant du Christ a rendu la loi mosaïque obsolète, la loi intérieure sur le cœur de chaque homme est toujours vivante, jamais annulée, et cette loi intérieure inclut le cœur moral de la loi mosaïque. Et pour être libre de cette loi intérieure, par laquelle tous les hommes seront jugés, vous devez vous soumettre à Dieu, qui condamne les péchés dans votre chair, par des commandements que vous entendez en l'attendant. Ces commandements s'établissent comme des lois supplémentaires dans votre cœur. Les nombreux commandements de l'esprit restreignent l'esprit charnel, les paroles et les actions, et si ces commandements prononcés sont pris en compte et obéis, on perd progressivement sa vie charnelle, en mourant chaque jour, jusqu'à ce que l'esprit charnel et la volonté soient crucifiés morts. Le Christ est alors révélé dans leur corps. Le Seigneur condamne le péché dans votre chair en vous le révélant et en vous ordonnant de vous repentir, chose dont vous n'avez souvent même pas conscience. En reconnaissant que ces révélations sont vraies, vous obéissez à ses commandements, il enlève alors même le désir de ce péché de votre cœur. Ce processus se répète, d'abord avec vos actes, puis vos paroles, puis vos pensées, jusqu'à ce que vous ayez crucifié votre esprit charnel et votre nature pécheresse. Alors vous êtes libre de la loi, marchant sous la domination totale du Seigneur dans vos pensées, vos paroles et vos actes. Comme Paul l'a écrit en Romains 7, à propos des nombreux commandements qu'il a reçus, « Par la loi, je suis mort à la loi », ce qu'il a aussi dit en des termes encore plus forts, « J'ai été crucifié avec Christ ». Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, Galates 2, 20. Tant que vous ne perdez pas votre vie en crucifiant votre nature pécheresse, votre esprit charnel et votre esprit mauvais, vous êtes encore sous la loi, jusque-là, vous marchez encore dans une chair restreinte, jusque-là, la loi est votre pédagogue. Jusqu'à ce que Christ remplace votre nature, votre pensée et votre esprit par les siens, de sorte que votre nature charnelle soit morte, vous êtes sous la loi. Quand Christ contrôle vos pensées, vos paroles et vos actes, alors la loi n'a plus autorité sur vous parce que le « vous » égoïste est mort. Même ceux qui ne connaissent aucune loi ont la loi intérieure sur leur cœur, par laquelle un homme est jugé et qui a autorité sur lui jusqu'à la mort. Cette loi intérieure écrite sur le cœur de chaque homme nous fait nous sentir mal lorsque nous mentons, volons ou manquons de respect à nos parents. Cette loi inclut les lois morales externes, ne vole pas, ne ment pas, ne convoite pas, ne tue pas, ne commets pas d'adultère et toute immoralité sexuelle, honore tes parents, fais aux autres ce que tu veux qu'ils te fassent, etc. Chaque homme sera jugé par Dieu selon la loi intérieure, aucun homme n'est dispensé de cette loi pour quelque raison que ce soit, et elle n'a jamais été abrogée ni annulée. La loi a autorité sur l'homme tant qu'il vit, Romains 7:1, la loi intérieure sur le cœur de chaque homme, qui inclut le cœur moral de la loi extérieure, est notre pédagogue jusqu'à ce que nous ayons crucifié notre nature pécheresse sur la croix intérieure du renoncement à soi. Les lois morales de la loi intérieure dépassent les lois morales externes mosaïques, car comme Jésus l'a dit, il est venu accomplir la loi, puis il nous a dit comment elle devait être renforcée, ce que reflète la loi intérieure. On peut comprendre que cette loi intérieure renforcée est violée chaque fois que vous manifestez un fruit de la chair, notamment immoralité sexuelle, impureté, cupidité, obscénité, propos insensés, plaisanterie, grossièreté, adultère, absence de maîtrise, sorcellerie, haine, dispute, jalousie, fureur, ambition égoïste, esprit de division, envie, meurtre, ivrognerie, orgie, fête, mauvaise pensée, fornication, méchanceté, tromperie, blasphème, orgueil, colère, vantardise, flatterie, immodestie, immoralité et folie. Chacune de ces choses disqualifie tout homme pour le ciel. De la parole du Seigneur au-dedans, la loi est dans le cœur de chaque homme, et il faut lui obéir à la loi suprême jamais annulée. Vous ne pouvez pas passer outre les commandements moraux et être chrétien. Vous devez avoir du dévouement pour la loi qui est sur le cœur de chaque homme, vous devez écouter et vous devez obéir. Soyez sur vos gardes en tout temps afin que vos paroles ne reflètent pas les fruits de la chair. La retenue du péché ne suffit pas, le salut, c'est être libéré même du désir de vos péchés. Seul un cœur purgé du péché est acceptable à Dieu. Pendant que vous attendez Dieu, les commandements exigeant votre repentance que vous entendez de l'Esprit sont de nouvelles lois de la nouvelle alliance, écrites en votre cœur. Car voici l'alliance nouvelle que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Hébreux 8 dit les paroles qu'il nous dit sont esprit et vie, communiquant la vie de Dieu en nous tandis que ces paroles prononcées sont greffées dans notre cœur, Jean 6:63, Jacques 1:21. Ces paroles sont des enseignements et des commandements, ces commandements exigeant votre repentance deviennent des lois qu'il met dans notre esprit et écrit dans notre cœur. Chaque loi que vous recevez s'ajoute à la loi intérieure de votre cœur, de la parole du Seigneur au-dedans. Quand vous avez entendu les paroles mortes dans la Bible et que vous vous en souvenez, tenez compte de ce qui est dit, toujours obéissant à ces commandements. Vous devez obéir à toute loi que l'Esprit établit. Lorsque vous obéissez au commandement de repentance par grâce, même le désir de ce péché est ôté de votre cœur. Ce processus se répète, d'abord avec vos actes, puis vos paroles, puis vos pensées, jusqu'à ce que vous ayez crucifié votre esprit charnel et votre nature pécheresse, c'est ainsi que vous mourrez à la loi par la loi. Pour être libre de cette loi intérieure, par laquelle tous les hommes seront jugés, vous devez vous soumettre à Dieu, qui condamne les péchés dans votre chair, par des commandements adaptés aux circonstances de votre vie et que vous entendez en l'attendant. Ces commandements s'établissent comme des lois supplémentaires dans votre cœur, où se trouvent toutes les lois que vous devez obéir et continuer d'obéir jusqu'à ce que vous soyez entièrement crucifié, puis marcher dans l'amour et la liberté sans loi, parce que vous êtes continuellement guidé par le Seigneur qui vous fournit. Vous ne pouvez pas être sauvé et justifié en essayant d'observer les commandements ou en faisant des œuvres de la loi. Le salut et la justification viennent par une foi qui purifie votre cœur et votre âme par sa grâce. Il est impossible d'aimer pleinement Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre âme et de toute votre force, ou d'aimer votre prochain comme vous-même, jusqu'à ce que la puissance de Dieu circoncise réellement votre cœur de tout égoïsme et de tout mal. Mais essayer d'observer ces commandements moraux, se détourner du mal du mieux que nous pouvons, est un préalable pour chercher sincèrement Dieu et son salut. Au début, vous ne pouvez pas encore maîtriser votre esprit, vous ne pouvez pas encore totalement maîtriser votre bouche, mais vous pouvez empêcher vos mains et vos pieds de courir vers le mal et de s'en saisir. Si vous pensez être sauvé simplement parce que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité des morts, etc., ou parce que vous avez aussi été baptisé d'eau, alors vous avez une apparence de piété sans la puissance de Dieu pour vous nettoyer, vous purifier, circoncire votre cœur et vous rendre saint, ce qui, une fois accompli, rend l'amour de Dieu parfait en vous et vous accomplissez la loi. tant que nous ne pouvons pas entendre l'Esprit de Dieu nous enseigner, par grâce, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et comment vivre avec sobriété, justice et piété dans le monde présent, la loi intérieure sur le cœur de chaque homme, qui inclut les lois morales, est notre pédagogue. Elle nous rappelle nos manquements et nous pousse à aller à Dieu pour sa grâce qui nous transforme. Les œuvres de notre propre volonté sont des œuvres mortes, et à moins que votre esprit égoïste ne soit crucifié sur la croix du Christ, pour que l'esprit du Christ prenne sa place sur le trône de votre cœur, vous ne serez pas poussé par Dieu à faire les bonnes œuvres. Avant de pouvoir entendre la parole du Seigneur au-dedans de votre cœur pour vous guider, les premières œuvres sont la repentance, que Jean-Baptiste nous a dit être le préalable à la recherche du royaume des cieux. Repentez-vous, pensez autrement, changez d'esprit, regrettant vos péchés et changeant votre conduite. Matthieu 3:2 Partagez votre superflu avec ce qui manque du nécessaire. C'est la clé de votre réussite. Soyez honnête dans toutes vos affaires, sans jamais exagérer ni léser qui que ce soit. N'opprimez personne et n'effrayez personne, ne mentez pas, ne voulez pas davantage, ne vous plaignez pas. Luc 3, 10-14, et avant que vous puissiez entendre la parole du Seigneur au-dedans de votre cœur pour vous guider totalement, la loi intérieure sur le cœur de chaque homme, toujours vivante, et cette loi intérieure inclut le cœur moral de la loi mosaïque, est notre pédagogue. Le cœur moral de la loi est « aime ton prochain comme toi-même, et ne vole pas, et ne commets pas d'adultère, et ne mens pas, et ne convoite pas, et ne tue pas, et honore ton père et ta mère ». Il est clair qu'observer ces commandements moraux du mieux que nous pouvons, tout en attendant la direction de l'Esprit, ce n'est pas faire des œuvres de la loi. Les lois morales nous rappellent nos manquements et nous poussent à aller à Dieu pour recevoir sa grâce qui purifie le cœur et l'âme, afin de devenir libre de tout péché, même du désir de pécher, afin de pouvoir aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et afin de pouvoir aimer ton prochain comme toi-même. Outre les œuvres de la loi, les œuvres mortes faites par la volonté de l'homme, il existe une autre catégorie d'œuvres, les œuvres de la foi, qui sont des œuvres que vous entendez le Christ au-dedans de votre cœur, vous commander de faire, en vous exposant à entendre ses commandements en attendant Dieu, c'est-à-dire vous asseoir dans une humble silence, en écoutant sa voix et en guettant ses révélations. Obéir aux commandements de Dieu que vous l'entendez vous dire sont des œuvres opérantes de la foi, que Paul a déclaré nécessaire et que Jacques a déclaré indispensable, car la foi sans les œuvres est morte. Ce ne sont pas des œuvres que vous décidez de faire, ce sont des œuvres que Dieu veut que vous fassiez, et quand vous les faites, vous accomplissez sa volonté sur la terre comme au ciel. Ce sont des œuvres de foi faites dans une obéissance aimante aux commandements que vous entendez Dieu vous adresser au-dedans de votre cœur. Ce sont aussi des œuvres de vie, commandées depuis la vie de Dieu, le Christ, et les paroles qu'il vous dit communiquent la vie de Dieu. Jean 6, 63. Cherchez, attendez, veillez, écoutez, entendez, croyez ce que vous entendez ou ce qui vous est montré, et obéissez, et finalement vous aurez reçu tant de la vie de Dieu que vous serez nettoyés et purifiés. Alors Dieu vous dirige à faire des œuvres d'amour, pour votre joie et sa gloire. La première catégorie d'œuvres que vous entendrez Dieu vous commander de faire sont des œuvres de repentance, abandonnez vos mauvaises habitudes, passions et plaisirs. C'est la fonction de la grâce, nous enseigner à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et comment vivre avec sobriété, justice et piété dans le monde présent. Tite 2:12. Les commandements que vous l'entendez vous dire doivent être gardés, retenus et obéis. S'il vous ordonne de renoncer à quelque chose dans votre vie, vous devez continuer à y renoncer. Les commandements que vous obéissez et gardez sont ensuite écrits dans votre cœur et votre esprit, complétant la loi intérieure déjà présente sur le cœur de chaque homme. Ainsi l'Écriture s'accomplit. Je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leurs esprits compréhension intérieure. Hébreux 10, 16. C'est la nouvelle alliance, car voici l'alliance nouvelle que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Hébreux 8, 10. Donc Christ est le médiateur, gérant la condamnation des péchés dans le cœur des hommes par de nouvelles lois commandées, qui exigent des œuvres de repentance, et dont l'obéissance aboutit au nettoyage des péchés. Vous ne pouvez pas simplement dire « je crois » et vivre dans votre nature pécheresse sans obéissance, une telle foi est le service des lèvres morts des hypocrites dont le cœur demeure souillé par le péché. Les œuvres d'amour obéissant animées par la foi sont estimées et exigées par Dieu. On m'a posé la question « combien d'œuvres sont nécessaires au salut ?» La réponse est « autant d'actes de repentance qu'il en faut pour crucifier votre nature pécheresse ». Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair, la nature pécheresse, avec ses passions et ses désirs convoitises et affections. Galates 5, 24 Car si vous vivez selon la chair, la nature pécheresse, vous mourrez, mais si par l'Esprit, vous faites mourir, mettez à mort les œuvres du corps, vous vivrez. Romains 8, 13 Vous vous demandez donc peut-être, Comment le fait de crucifier ma nature pécheresse peut-il être une œuvre ? Réponse : porter sa croix est un travail dur, un travail requis, une œuvre d'obéissance. C'est perdre sa vie pour la sauver, l'unique vrai sacrifice, requis par Dieu et qui lui est agréable. Mais les faux prophètes disent que vous n'avez rien à faire, car nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi et la grâce. Ils disent que si vous faites des œuvres, même porter votre croix, vous cherchez à être justifié sous la loi, et vous perdez donc le salut. Bien sûr, nous sommes sauvés par la foi et la grâce, mais après la repentance et après avoir porté notre croix par la foi pendant un temps, des œuvres par la foi, animées par la foi. Nous ne pouvons pas être justifiés par les œuvres seules sans une foi obéissante en Christ, mais à moins que notre foi nous anime et nous pousse à accomplir de nombreuses bonnes œuvres dans l'obéissance, notre foi est imaginaire, un christianisme de façade. Nous ne pouvons pas être justifiés en suivant la loi mosaïque, avec ses centaines de commandements relatifs aux cérémonies, rituels, ablutions, sabbats, aliments, sacrifices, etc. C'est ce que Paul disait ne comptait pour rien. Paul parlait des œuvres de la loi sans la foi qui ne peuvent pas vous justifier. Mais soyez bien certains que sans obéissance aux lois morales, vous ne verrez jamais le royaume de Dieu, comme Paul l'a dit, car vous pouvez en être sûr, aucun fornicateur, ni impur, ni cupide, qui est idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par de vaines paroles, car à cause de ces choses la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. Éphésiens 5:5 Si Jacques a dit « La foi sans les œuvres est morte ». Jacques 2:17 Jacques a encore dit « Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. » Jacques 2:24 Beaucoup pensent que Paul contredit Jacques, mais bien sûr Jacques et Paul ne se contredisent pas, et ne se contrediraient jamais. Dans les passages ci-dessous, Paul parle dans le contexte des œuvres de la loi, sacrifices, dîmes, ablutions, sabbats, fêtes, restrictions alimentaires, circoncisions, etc. Sachez que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ. Galates 2:16 La foi, c'est l'entendre et lui obéir. L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Romains 3:28 Paul méprise les œuvres de la loi, mais il est grossièrement mal compris comme incluant toute la loi, y compris les commandements moraux. Aucun homme n'est justifié par la loi devant Dieu. Galates 3:11 Ce verset fait partie de l'erreur quand on ne le lit pas dans son contexte avec le verset précédent. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Galates 3:10 Mais Paul rend très clair que les conséquences du péché s'appliquent encore à tout homme, et que les œuvres d'amour animées par une foi obéissante sont requises et estimées dans Romains 2:8-16 détaillées ci-dessous. Mais pour ceux qui sont animés d'ambition égoïste, et n'obéissent pas à la vérité, mais obéissent à l'injustice, il y aura indignation et colère. Romains 2:8 Remarquez bien. Ne pas obéir à la vérité, c'est péché. Obéir à l'injustice, c'est péché. En obéissant à la vérité, votre âme est purifiée. 1 Pite 1:22 Il y a encore le péché. Il y a encore une obéissance qui mène à la justice. Romains 6:16 Il y a encore la colère de Dieu qui vient sur les désobéissants. Cette colère n'a pas lieu seulement dans la vie à venir, mais elle est aussi une condamnation continue dans cette vie parce que ceux qui pêchent demeurent dans l'état maudit et déchu d'Adam, sans parvenir à être réunis à Dieu avec la lumière de vie venant de Dieu, toujours privés de manger de l'arbre de vie, ce qui, lorsque le péché a été crucifié en un homme, peut de nouveau être goûté par lui. L'indignation et la colère sont la fureur de Dieu qui vient sur les pécheurs, surtout les pécheurs qui pensent que Jésus est leur excuse pour continuer à pécher. De la parole du Seigneur au-dedans, il y a deux choses que je hais, l'orgueil et une excuse pour l'échec. Tout le monde s'attend à ce que Jésus soit son excuse. C'est un peuple obstiné, leur cœur s'est refroidi. Ils pensent être sauvés en faisant du bruit à propos du fait d'être sauvés. Vous êtes les esclaves de celui que vous choisissez d'obéir. Affliction et détresse sur toute âme d'homme qui fait le mal qui pêche, du juif d'abord et aussi du grec. Romains 2:9 Mais gloire, honneur et paix pour tout homme qui fait le bien. Romains 2:10 Car il n'y a pas d'acception de personne chez Dieu. Pas de partialité, tous les hommes sont jugés selon leurs œuvres. Romains 2:11 Car tous les non-juifs qui continuent à pécher sans la loi périront aussi sans la loi, et tous les juifs qui continuent à pécher sous la loi seront jugés par la loi. Romains 2:12 Paul nous dit que nous devons être libérés du péché avant de mourir, sinon nous périrons. Devenir libre du péché est l'évangile de Jésus-Christ. Aller dans toutes les nations et prêcher la repentance avec la délivrance de l'esclavage, la rémission du péché. Paul écrit à des chrétiens très mûrs à Rome. Paul dit aux chrétiens que s'ils pêchent, ils périront. Tous ceux qui pêchent, continuent de pécher, périront. Tous signifie tous, même ceux qui croient en Jésus. La seule façon dont vous pouvez échapper aux conséquences du péché est de suivre les commandements moraux de la loi, de renoncer à vous-même et de prendre votre croix pour suivre Jésus chaque jour. Si vous le faites, vous ne périrez pas, au contraire, vous aurez la vie de Dieu, qui n'a ni commencement ni fin, et vous deviendrez libres du péché pour entrer dans le royaume de Dieu, être en union avec Dieu, sur la terre puis pour toujours. Astérisque dans le grec original de ce verset, péché était à l'aoriste un temps variable et a été incorrectement traduit par ceux qui ont péché, sauf dans la nouvelle version internationale. Si tous ceux qui ont péché périssent, alors tout le monde périt, ce qui n'est pas le cas, car ceux qui deviennent libres du péché tout en étant encore sur la terre entrent dans le royaume pour recevoir la vie éternelle en union avec Dieu comme un fils de Dieu, ce qui est la bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu prêcher. Car ce ne sont pas ceux qui entendent la loi qui sont justifiés devant Dieu, mais ceux qui mettent la loi en pratique les obéissants qui seront justifiés. Romains 2:13 Car lorsque les païens, qui n'ont pas la loi, font obéissent naturellement les choses prescrites par la loi, ces hommes, qui n'ont pas la loi, sont une loi pour eux-mêmes. Romains 2:14 Ils montrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant aussi témoignage, tandis que leurs pensées les accusent ou au contraire les excusent. Romains 2:15 Tout cela arrivera au jour où Dieu jugera les secrets des cœurs des hommes par Jésus-Christ. Romains 2:16 Paul dit que l'obéissance à la loi intérieure sur votre cœur est requise jusqu'à ce que vous soyez entièrement conduit par l'Esprit de Dieu, mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Galates 5:18 La loi est votre pédagogue jusqu'à ce que la foi soit venue. Galates 3:24-25 George Fox a écrit au sujet de cette transition du pédagogue de la loi à l'Esprit du Christ dans son journal. La loi de l'Esprit se croise avec l'Esprit, l'âme et la volonté charnelle, qui vivent dans la désobéissance et ne se tiennent pas dans la loi de l'Esprit. Je vis que cette loi était le pur amour de Dieu qui reposait sur moi, et que je devais la traverser, bien que j'aie été troublé tant que j'étais sous elle, car je ne pouvais pas être mort à la loi autrement que par la loi, qui jugeait et condamnait ce qui doit être condamné. Je vis que beaucoup parlaient de la loi, qui n'avaient jamais connu la loi comme leur pédagogue, et beaucoup parlaient de l'Évangile du Christ, qui n'avaient jamais connu la vie et l'immortalité mises en lumière en eux par lui. Vous qui avez été sous ce pédagogue et sous sa condamnation, vous connaissez ces choses, car bien que le Seigneur m'ait révélé ces choses en secret en ce temps-là, elles ont depuis été publiées par son Esprit éternel, comme sur les toits. Et à mesure que vous êtes amenés dans la loi, et par la loi à y mourir, et que vous êtes témoins voyés, expérimentés de la justice de la loi accomplie en vous, vous viendrez ensuite à savoir ce que c'est que d'être amené dans la foi, et par la foi d'être affranchi de la loi, et en demeurant dans la foi, dont Christ est l'auteur, vous aurez la paix et accès à Dieu. Ainsi jusqu'à ce que vous soyez témoins de la justice de la loi accomplie en vous, vous devez encore vous efforcer d'obéir aux lois morales et aux lois intérieures sur votre cœur. Note, Fox a écrit ci-dessus qu'il existe un niveau de foi entièrement différent, qui vient après que vous avez été témoins de la justice de la loi accomplie en vous. Cela arrive après que vous avez été crucifié sur la croix intérieure du renoncement à soi, après avoir reçu l'apparition du Christ dans votre cœur, et après avoir produit le fruit de l'Esprit, qui inclut l'amour, la paix, la joie, la bonté, la foi à un nouveau niveau de foi, mais le seul niveau de foi et de croyance qui vous libère de la loi. Paul expose ci-dessous, dans Galates 5, 18-24, comment la foi est reçue comme un fruit de l'Esprit en crucifiant la nature pécheresse, mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont adultère, immoralité sexuelle, impureté, absence de maîtrise, idolâtrie, sorcellerie, haine, dispute, jalousie, fureur, égoïsme, esprit de division, envie, meurtre, ivrognerie, orgie, fait et choses semblables. Je vous avertis d'avance, comme je l'ai déjà fait auparavant, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, calme et confiance assurée pour toujours, patience incluant l'endurance, la constance et la persévérance, bonté incluant la moralité et l'intégrité, bienveillance, foi, douceur incluant la mansuétude et l'humilité et maîtrise de soi, domination des appétits sensuels, des passions et des désirs. Contre ces choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair, la nature pécheresse avec ses passions et ses désirs convoitises et affections. Galates 5, 18-24. Jusqu'à ce moment, tandis que vous entendez l'Esprit de grâce au-dedans vous convaincre de péché et vous enseigner la vie juste, vous êtes dans le ministère de condamnation, sans avoir encore reçu le ministère de justice, encore soumis à la loi du péché et de la mort, marchant encore selon la chair et l'esprit charnel, sans avoir encore reçu la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus, sans être encore en Christ, sans être encore mort à la loi par la loi, et sans marcher encore selon l'inspiration de l'Esprit dans vos pans. De la parole du Seigneur au-dedans, jusqu'à ce que vous soyez témoins de recevoir la foi de Christ, vous êtes sous la loi. Jusqu'à ce que vous ayez accompli la loi, vous êtes sous la loi. Malheur à vous si vous n'écoutez pas et n'accomplissez pas la loi. De plus, Paul dit que les œuvres de la loi ne valent rien. Paul parle des œuvres de la loi qui ne comptent plus pour rien maintenant. la circoncision, les aliments, les jours, les ablutions, les sabbats, les sacrifices, etc. Paul parle d'œuvres mortes, issues de la volonté de l'homme et non suscitées par Dieu. Les œuvres d'humilité volontaire et les œuvres sans amour ne comptent pour rien. 1 Cor 13, 3 La foi doit être une foi agissante, attestée par des œuvres d'amour obéissantes envers Dieu, c'est-à-dire l'obéissance aux commandements entendus de l'Esprit de Dieu, tel est l'amour de Dieu. Les premières œuvres d'amour envers Dieu sont A. Attendre dans un humble silence, en écoutant et en veillant à ses commandements, et B. Ensuite obéir à ses commandements prononcés, que vous entendez vous ordonner de vous repentir des péchés qu'il révèle dans votre cœur. Considérons comment nous encourager les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Hébreux 10, 24 Paul ne dit pas que vous pouvez ignorer les lois morales, être sans amour, immoral, avide, adonné au plaisir, menteur, coléreux, etc. Paul a dit « J'ai proclamé » qu'il devait se repentir et se tourner vers Dieu et faire des œuvres conformes à la repentance. Actes 26, 20 Paul a dit « Continuez à travailler à votre salut avec crainte et tremblement ». Philippiens 2, 12 Paul a dit « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu ». 2 Cor 1 Paul a dit « Recommande à ceux qui sont riches dans ce monde de ne pas être hautains, ni de mettre leur confiance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne richement toutes choses pour en jouir. Recommande qu'ils fassent le bien, qu'ils deviennent riches en bonnes œuvres, qu'ils soient généreux, partageant avec les autres. » 1 Tim 6, 17-18 « Si vous vivez dans une nation prospère et industrialisée, vous êtes riche comparé au reste du monde. Soyez donc riche en bonnes œuvres. » Paul a dit « La gloire, l'honneur et la paix sont pour tout homme qui fait le bien. » Rome 2 dit Paul a dit « À ceux qui, par la persévérance dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, il donnera la vie éternelle. » Rome 2 7 Pierre a dit « Quiconque le craint et pratique la justice est agréé par lui. » Actes 10 35 Pierre encore « Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété. » 2 Pé 1 5 Si Jésus a dit « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Luc 13 3 « La repentance exige un effort de votre part. » Et tout ce que j'aime, je les reprends et je les châtie, sois donc zélé et repens-toi. Rêve 3:19, zélé signifie rempli d'un désir ardent, enthousiaste. Jésus a encore dit, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Matthieu 11:29, Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Luc 9:23, dans ses messages aux sept églises, Jésus mentionne à chaque église combien ses œuvres sont essentielles. Jésus a dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rêve 3:2-3. Il veut des œuvres parfaites animées par la foi. Écoutez, Jésus a dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer, et ne le pourront pas. » Luc 13, 24, Matt 7, 13, 14 L'Évangile de la grâce voudrait vous faire croire que l'effort n'est pas nécessaire, pourtant Jésus nous a ordonné de nous efforcer de faire tous nos efforts. Jésus dit encore, « Étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent, car beaucoup tenteront d'entrer et ne le pourront pas. » Les avertissements de Jésus ne sont-ils pas en grave conflit avec la grâce instantanée? D'où lecteur, prenez au sérieux ce que dit Jésus. Le fait d'avoir récité une prière du pécheur et d'avoir été mouillé n'est ni difficile à trouver, ni difficile à faire. Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez plutôt pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera. Je suis le pain de vie. Les paroles que je vous dis sont esprit, et elles donnent la vie. John 6, 27, 48, 63 Mais celui qui pratique la vérité, qui fait ce qui est juste vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées comme ayant été produites, formées, rendues possibles par Dieu. John 3, 21 Un vrai croyant fait la vérité, ou pratique la vérité, il fait ce qui est juste. Il en a fini avec le péché, avec le fait de faire ce qui est mal. Un croyant vient à la lumière sans crainte pour montrer que ses actes ou œuvres ont été produits par Dieu ou divinement opérés, formés, suscités et animés. La grâce et le salut de Dieu sont donnés pour créer des chrétiens, des personnes consacrées aux bonnes œuvres, formées et animées par Dieu, lui qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, acte sans loi, péché, et de se purifier un peuple qui lui appartienne en propre, zélé pour les bonnes œuvres. Tite 2, 14 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions en faisant de bonnes œuvres. F2 10 Or, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, ce grand berger des brebis, par le sang de l'Alliance éternelle, vous rende parfait en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, opérant en vous ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Hébreux 13, 20-21 Afin que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur, lui plaisant en toutes choses, portant du fruit en toute bonne œuvre. Colin dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16 « Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées comme ayant été produites, formées et animées par Dieu. » John 3, 21 « Car c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir, agir et l'action, comme commandé selon son bon plaisir. » Phil 2, 13 « Ainsi, si quelqu'un se purifie de ces choses iniquités, absence de loi, péché, il sera un vase d'honneur sanctifié et utile au Maître, préparé pour toute bonne œuvre. » 2 Tim 2, 21 « Les premières œuvres pour tous sont la repentance, Dieu vous incitant ou vous montrant de quoi vous repentir, puis vous, dans la tristesse, décidant de faire mieux la repentance. » Comme Paul l'a dit, « J'ai proclamé qu'il devait se repentir et se tourner vers Dieu et faire des œuvres conformes à la repentance. » Acte 26, 20 « Bien qu'on vous ait peut-être dit que croire en Jésus est votre excuse pour contourner le jugement, c'est un mensonge, le jugement final de tout homme est fondé sur les œuvres, et je vis les morts, petits et grands, se tenir devant Dieu, et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres, et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. » Rêve 20, 12, 13 « Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Matthieu 16, 27 « Je suis celui qui sonde les esprits et les cœurs, et je donnerai à chacun de vous selon ses œuvres. » Rêve 2, 23 « Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve l'esprit, afin de rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actes œuvres. » Jer 17 dit « Ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres ?» Pro 24, 12 « Le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses actes. » Rome 2, 5 « Si l'œuvre de l'homme sera mise en évidence. » Car le jour du Seigneur la fera connaître parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera et testera l'œuvre de chacun, de quelle nature elle est encore. 3, 13, car chacun sera salé avec du feu. Mock 9, 49 La foi sans les œuvres est morte. Ceux qui n'ont pas d'œuvres animées et suscitées par Dieu verront leurs âmes détruites et leurs esprits bannis du ciel. Les premières œuvres d'un vrai croyant sont des œuvres de repentance. Les mensonges sur la grâce, la définition de la grâce, a été déformée en mensonges pernicieux par les faux prophètes. Ils disent que lorsque vous répétez la « prière du pécheur » ou que vous dites que Jésus est Seigneur et ou que vous êtes baptisé, vous recevez instantanément la grâce de Dieu pour pardonner tous vos péchés passés, présents et futurs, ce qui vous autorise à vivre le reste de votre vie dans le péché, avec leur garantie que vous irez au ciel quand vous mourrez. Concernant le salut instantané par la grâce, selon la parole du Seigneur au-dedans, c'est déformé, ce sont des mensonges pernicieux, un défaut fatal qui détourne le juste. La grâce ne sauve personne instantanément. Considérez combien l'apôtre Paul dans Tite définit la grâce d'une manière complètement différente. Ce par quoi nous devons être sauvés car la grâce de Dieu, source de salut, est apparue à tous les hommes, nous enseignant à renoncer à l'impiété aux convoitises mondaines, et à vivre dans le présent siècle avec sobriété, justice et piété, attendant l'heureuse réalisation de notre espérance, et l'apparition glorieuse du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Titus 2, 11, 14 « Quiconque pratique le péché pratique aussi l'illégalité, car le péché est l'illégalité. » 1 John 3, 4 « La grâce, l'Esprit de Dieu, la lumière de Dieu donnée à tout homme, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre avec justice et piété dans le présent siècle, et ainsi à devenir purifiés et zélés pour les bonnes œuvres. » Renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, c'est la repentance. La grâce nous conduit à la repentance. La grâce nous conduit à la croix intérieure du renoncement à soi, afin que nous puissions crucifier notre nature pécheresse, devenir libres de tout péché et être purs. Voilà la définition paulinienne de la grâce. Voyez-vous combien la définition de Paul diffère de la définition de la grâce instantanée, sans effort, qu'on vous a vendue par les faux prophètes. Celui qui pêche encore pourrait, par erreur, soutenir qu'il est racheté de tout acte sans loi, mais pas que la grâce l'a purifié. Il y a 2000 ans, des chrétiens apostats transféraient le sens de la grâce, le détournant de la vérité selon laquelle, par la repentance, l'Esprit de Dieu nous commande de renoncer aux convoitises et à l'impiété, tout en nous purifiant afin que nous puissions vivre, dans ce présent monde, une vie sobre et pieuse pour le transférer à la place au mensonge tordu selon lequel la grâce excuse tous les péchés passés, présents et futurs chez les croyants, autorisant ainsi les croyants à vivre selon leurs convoitises et leur orgueil comme. Jude a écrit « Car certains hommes se sont glissés parmi vous à votre insu, depuis longtemps désignés pour cette condamnation, des hommes impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et en débauche, une licence pour l'immoralité, et qui renient et désavouent notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Jude 1, 4 Ces hommes étaient de faux chrétiens, qui s'étaient glissés à l'insu des vrais chrétiens, prêchant la liberté de pécher par la grâce, par la foi en Jésus. Mais par leurs paroles et leurs actions pécheresses, ils le niaient comme leur maître et seigneur, comme il l'était pour les vrais chrétiens de ce temps-là. Le faux évangile de la grâce était vendu comme salut il y a 2000 ans. Malheureusement, le faux salut instantané est maintenant devenu si omniprésent que toutes les sectes sont des sectes déficitaires. Voir la grande apostasie pour plus d'informations. D'après la parole du Seigneur au-dedans, es-tu d'accord avec ceux qui, dans leur arrogance, ont affirmé que Dieu excuse le mal chez les croyants? Ce n'est pas juste, mais ils s'en moquent. Ils ont pris la Bible et en ont fait une chose impie, utilisée pour justifier leur immersion dans le péché. Ils ne voudraient aucune loi. La nouvelle loi est devenue l'injustice. Le christianisme n'a aucune idée de ce que je suis ni de ce que je défends, voire vraie grâce vs. fausse grâce pour une discussion complète sur la manière dont la définition de la grâce a été déformée en mensonge malveillant. Votre nature pécheresse doit être crucifiée sur la croix intérieure du renoncement à soi, avant que vous ne receviez la puissante grâce de Dieu pour circoncire votre cœur, renouveler votre intelligence et naître de nouveau comme une créature entièrement nouvelle. Alors vous marcherez dans une obéissance parfaite au commandement de Dieu. Vous ne pouvez pas être obéissant ni plaire à Dieu en continuant à marcher dans votre nature charnelle, nature pécheresse ou la chair. À ceux qui, par ambition égoïste, n'obéissent pas à la vérité mais obéissent à l'injustice, il revient l'indignation et la colère, la tribulation et l'angoisse, sur toute âme d'homme qui fait le mal, Romains 2:8-9, même ceux qui en parole ont professé connaître Dieu, mais le nient par leurs actes. Tiens 16 Le salut par la grâce ne se reçoit que par la mort de la nature pécheresse sur la croix. Les mensonges de la liberté vis-à-vis de la loi, l'absence de loi promue, rendons-nous donc la loi inopérante par la foi? Absolument pas, au contraire, nous établissons la loi. Romains 3:31 Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Galates 5:18 Tant que vous n'êtes pas conduits par l'Esprit, la loi est votre pédagogue. Il existe une glorieuse liberté des fils de Dieu, qui marche selon la loi de liberté. Mais avant d'être un fils de Dieu, jouissant de la liberté chrétienne, marchant sous le contrôle du Saint-Esprit dans l'amour, contre lequel il n'y a pas de loi, vous devez d'abord être crucifié pour devenir pur, afin de produire le fruit de l'Esprit. Dieu comme vous ne veut pas de fils remplis de convoitise, d'avidité, de colère, de mensonge, de jalousie, d'envie, etc. Et avant de vous accepter comme un fils, vous devez être châtié et flagellé de tout le mal qui est en vous par la croix. Ces faux prophètes vous disent que vous avez la liberté de continuer à pécher et à pratiquer l'absence de loi sans que la colère de Dieu s'ensuive. Les mêmes sortes de mensonges se répandaient au temps des apôtres, il y a 2000 ans. Pierre y fait référence, car en tenant des discours enflés et vains, ils attirent, par les convoitises de la chair et par beaucoup de débauches, ce qui échappait à peine à ceux qui vivent dans l'erreur. Alors qu'ils leur promettent la liberté, eux-mêmes sont esclaves de la corruption, car de quoi un homme est vaincu, de cela il est asservi. 2 Pite 2:18-19 Les faux prophètes qui mentent au sujet de la liberté vis-à-vis de la loi et de la liberté de péché ont aussi été évoqués par Paul. Frères, soyez mes imitateurs et observez ce qui marche selon le modèle que nous vous avons donné, afin de nous prendre pour exemple. Car beaucoup marchent, dont je vous ai souvent parlé et dont je vous parle encore maintenant en pleurant, comme des ennemis de la croix de Christ, leur fin est la perdition, leur Dieu c'est leur ventre désir, convoitise, leur gloire est dans leur honte, et leurs pensées sont tournées vers les choses terrestres. Phil 3:17-19 Ceux qui prétendent être justes par grâce et libres d'obéir à la loi sont des hypocrites, une pierre d'achoppement, et ils dispersent les vraies brebis loin de Christ. Un hypocrite parle d'être religieux tout en marchant dans le péché. Jésus s'est adressé aux hypocrites, « Vous êtes ceux qui vous déclarez justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. » Luc 16:15 Ce peuple s'approche de moi avec sa bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Matthieu 15:8 Ainsi, vous aussi, vous paraissez extérieurement juste aux hommes, mais au-dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité péché. Matthieu 23:28 Vos cœurs doivent être purifiés et réellement purifiés jusqu'à la pureté. Après avoir été purifiés du péché et être devenus purs, alors, et alors seulement, vous êtes remplis d'amour et marchez pleinement sous le contrôle de Dieu, dans l'amour et avec le fruit de l'Esprit, contre lesquels il n'y a pas de loi. D'après la parole du Seigneur au-dedans, il n'y a pas de loi quand vous êtes sous le contrôle complet de l'Esprit. Vous marchez dans l'amour, dans l'obéissance selon l'impulsion, vous ne marchez pas dans la chair limitée. La loi s'appliquait à l'homme déchu, qui a perdu la vie et la conduite de Dieu. Aucune loi ne s'applique à un homme qui a été restauré à l'image spirituelle de Dieu. Si vous désobéissez à la loi morale, faute d'avoir été rendu pur et avant que vos paroles et vos actes ne soient complètement sous le contrôle de Dieu, vous marchez dans le péché et l'absence de loi. Notez. La rébellion, désobéissance, est aussi grave que le péché de sorcellerie, et l'entêtement est aussi grave que l'iniquité et l'idolâtrie. 1 Sam 15, 23 Alors, quelles parties de la loi mosaïque ne sont pas communes à la loi morale de Dieu écrite sur le cœur de tout homme? Tout ce qui touche à la forme, à la cérémonie, ou aux ombres de ce que Christ, la réalité, a effectivement remplacé, tout ce qui ne concerne pas la morale, la circoncision, la dîme, les jours de sabbat, une ombre du repos, les viandes, les jours, les fêtes, les serments, l'habillement, le baptême d'eau, etc. Tout cela est mort avec Christ. L'obéissance à ces parties de la loi ne compte pour rien et dément votre foi dans le sacrifice durable de Christ. Par ses souffrances, celles de Jésus, une seule offrande, sacrifice et mort, il a mis fin à toutes les offrandes légales, type, ombre et figure, ordonnances extérieures d'hymnes, rites et cérémonies, et aux nombreux lavages baptêmes, sous la loi de Moïse et le sacerdoce lévitique, d'après une lettre de G. Whitehead, si votre médecin vous persuade que la circoncision est souhaitable pour des raisons de santé, aucun problème, mais être circoncis pour plaire à Dieu est une grave erreur. La circoncision du prépuce n'est qu'une ombre de la circoncision que nous devons tous obtenir, la circoncision du cœur, pour devenir un juif intérieur. Les sacrifices d'animaux ne sont qu'une ombre de l'unique sacrifice chrétien accompli par devoir, la nature charnelle, égoïste, animale du chrétien, et son esprit, mis à mort par la croix de Christ et présenté sur l'autel à Dieu, l'unique vrai sacrifice requis. La dîme est morte avec le nouveau sacerdoce de Christ. Voir les écrits de Fox sur les détails de l'abolition de la dîme. Les serments sont morts avec Christ, désormais notre oui doit être oui, et notre non doit être non, sans aucun serment, ce que Christ et l'apôtre Jacques interdisent fermement. Voir les écrits de Fox sur les serments pour les détails. Concernant les restrictions de nourriture et de boisson, Paul a écrit « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire » Col 2, 16. Astérisque, il existe sur Internet plusieurs soi-disant évangiles perdus ou livres perdus astérisque astérisque de la Bible. Outre d'autres contradictions à la Bible, trois d'entre eux incluent des doctrines qui interdisent de manger de la viande et de boire de l'alcool, ce qui contredit Col 2, c'est et contredit Rome 14, 1, 3. Si vous souhaitez ne pas manger de viande, cela regarde vous et le Seigneur, mais ne le prêchez pas. Sachez qu'il y eut des dizaines de milliers de premiers Quakers qui entrèrent dans le royaume, et il n'existe pas un seul écrit de leur part qui recommande de ne pas manger de viande. Plusieurs premiers Quakers étaient vignerons, marchands de vin. Dans la maison de William Penn, gouverneur de Pennsylvanie, on brassait de la bière pour servir les invités. Dans le journal de George Fox, il écrivit à plusieurs endroits qu'il buvait de la bière et du vin, généralement mélangés à de l'eau, et le plus souvent lorsqu'il était si malade que ces liquides étaient la seule chose qu'il pouvait garder. Fox n'a jamais parlé contre l'alcool, il a défendu l'usage de l'alcool pour la santé et a condamné ce qui faisait boire aux autres de l'alcool en excès jusqu'à l'ivresse. Fox a cité plusieurs fois le conseil de Paul, « Car toute créature de Dieu est bonne et doit être reçue avec action de grâce. » Après le grand déluge, Dieu donna à l'homme la permission de manger les animaux. Jésus buvait du vin, et lui et ses disciples mangèrent le repas de la Pâque qui inclut la viande d'agneau. Et même les prêtres lévitiques étaient tenus par Dieu de manger la meilleure portion de la viande des sacrifices d'animaux. Astérisque cependant, le Seigneur peut nous restreindre de tout aliment ou boisson qu'il juge nécessaire. Il peut nous restreindre des aliments qui nuisent à un poids normal ou à notre santé, et il peut nous restreindre de l'alcool. La nourriture et la boisson relèvent de la conscience individuelle, instruite par les enseignements du Seigneur. Quelles que soient nos restrictions individuelles en matière de nourriture et ou de boisson venant du Seigneur, nous ne devons ni suggérer ni prêcher ces restrictions aux autres. Astérisque astérisque, trois soi-disant évangiles perdus interdisent de manger de la viande, un interdit de rendre visite aux femmes croyantes, un dit que Jésus n'était pas le Fils de Dieu, mais le précurseur de Mohammed, un dit que les restrictions alimentaires juives n'étaient que des métaphores pour des restrictions dans la conduite personnelle, etc., etc. Concernant l'observance de jours spéciaux, Paul était tolérant, permettant à l'un d'estimer un jour plus qu'un autre, et à un autre d'estimer tous les jours semblables, et de même au sujet des aliments, et de ne pas se juger les uns les autres, mais qu'il soit, dit-il, pleinement convaincu dans son propre esprit. Pourtant, envers ces Galates parmi lesquels il avait travaillé intensément, il condamne l'observation des jours, des mois, des temps et des années, et il condamna les païens se faisant circoncire dans l'espoir d'obtenir la justice. Alors que l'observance d'un jour est une affaire de conscience individuelle, dans laquelle on doit être pleinement convaincu, pour un groupe de croyants d'observer un jour spécial est certainement faux astérisque et une forme de religion, que Paul condamne, mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous êtes connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner encore aux règles et traditions de la culture du monde? Voulez-vous être de nouveau dans la servitude, vous observez des jours et des mois et des temps et des années? Je crains pour vous, de peur que je n'aie travaillé parmi vous en vain. Galates 4, 9, 11. Et si votre responsable d'église vous dit que vous devez observer certains jours ou certains aliments, vous écoutez un faux prophète, car Paul dit « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des jours de sabbat. » Col 2, 16. Ainsi, un individu peut choisir de célébrer certains jours, mais l'Église, comme politique ou règle, ne le peut pas, car c'est une forme de loi. Si nécessaire, le Seigneur dira à cet individu qui continue d'observer certains jours lesquels il doit arrêter, maintenant ainsi la liberté de la conscience individuelle. Astérisque, l'exception est la suivante. Si vous êtes un juif qui pratiquait la loi mosaïque et que vous vous êtes récemment tourné vers le christianisme, vous êtes autorisé, non obligé, à continuer cette pratique jusqu'à ce que vous ayez reçu de l'Esprit, la foi qu'une partie de la loi ne doit pas vous gouverner comme Pierre, car si vous pensez que c'est un péché de violer un quelconque aspect de la loi, vous êtes condamné si vous le violez. Ceux qui avaient été juifs étaient autorisés à observer les commandements de la loi concernant les jours, les fêtes et la nourriture, tandis que ceux qui avaient été païens étaient instruits de n'observer aucun jour, semaine, mois, etc. Ni de pratiquer aucune œuvre de la loi telle que la circoncision, et ils ne devaient pas se juger les uns les autres au sujet de la nourriture, de la boisson, des fêtes ou des jours de sabbat. Paul a écrit « Que chacun soit pleinement convaincu dans son propre esprit », ce qui signifie que ces choses relevaient de la conscience individuelle et que la conscience peut être instruite par l'esprit. Comme tous les hommes, un juif est affranchi de la loi entière lorsqu'il a été crucifié et qu'il est mort à la loi par la loi. Il existe des sectes entières construites autour du sabbat comme faisant partie des 10 commandements, insistant pour que le culte ait lieu le 7e jour, au lieu du 1er jour de la semaine. Parce que Jésus a dit qu'il ne passera pas un seul iota de la loi, il pense qu'obéir à tous les 10 commandements équivaut à obéir à toute la loi. La loi ne se limite pas aux 10 commandements, ce sont des centaines de lois relatives aux cérémonies, aux rituels, aux ordonnances, aux restrictions du sabbat, à la vie de famille, aux sacrifices, aux ablutions, etc. Obéir aux 10 commandements n'est pas obéir à la loi. Dans 1 Cor 16, 1-2, une collecte pour les frères pauvres à Jérusalem a été ordonnée par Paul le premier jour de la semaine, et non le sabbat juif. De plus, Jean a parlé du jour du Seigneur dans Rev 1-10, « Je fus en esprit au jour du Seigneur, le jour du Seigneur désignant le jour de la semaine où il est ressuscité. » De plus, Acte 27 déclare, « Le premier jour de la semaine, lorsque les disciples furent réunis pour rompre le pain, Paul s'adressa à eux devant partir le lendemain, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. » Cela prouve que l'Église primitive se réunissait le premier jour de la semaine et ne se réunissait pas le sabbat juif du septième jour. Paul a écrit que nul ne doit vous critiquer pour ne pas observer des ombres qui ont pris fin avec la réalité, Christ, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des jours de sabbat. Col 2, 16, 17. Le sabbat juif n'était qu'une ombre, une pâle ressemblance de la réalité, Christ, dont la venue a rendu obsolète toutes les ombres, y compris le sabbat, les offrandes, les sacrifices, la circoncision, les aliments, les fêtes, les jours saints, etc. Le sabbat n'est qu'une ombre du repos du chrétien, qui consiste à posséder la réalité, que l'ancienne ombre montrait faiblement, Christ dans sa plénitude, et contre le fait de ne pas y entrer, Hébreux nous avertit sévèrement, « Puisqu'une promesse d'entrer dans son repos subsiste, craignons donc que quelqu'un parmi vous ne paraisse être resté en arrière. » Hébreux 4.1. Ce repos est ce que Jésus a promis, « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et alors vous trouverez le repos pour vos âmes. » Matthieu 11, 29. C'est le repos par lequel tu fais reposer le fatigué, et c'est le rafraîchissement, pourtant ils n'ont pas voulu écouter. Isaïe 28, 12. C'est un avertissement sérieux pour tous ceux qui se disent chrétiens, afin d'éviter de perdre votre âme et d'être banni du ciel. Comme les Juifs furent tués dans le désert et empêchés d'entrer dans la terre promise à cause de leur incrédulité envers les promesses de Dieu, vous devez travailler avec zèle dans la foi pour atteindre le repos promis du sabbat spirituel, qui est l'union avec Dieu et l'entrée dans le royaume des cieux, au-dedans de vous et autour de vous. Nous nous asseyons en Christ pour entrer dans le repos, pour entrer dans le repos de la lutte contre nos ennemis, comme Israël entra dans le repos de la guerre et de la purification de leur pays des peuples païens environnants. Seulement nos ennemis sont spirituels. Convoitise, rage, orgueil, égoïsme, envie, avidité, cupidité, jalousie, mensonge, tromperie, vol, immoralité sexuelle, langage profane, pensée mauvaise, etc. Le salut consiste à être délivré du péché et protégé, sanctifié contre nos ennemis du péché. Mais toi qui veux être chrétien, pour être libéré du péché tu dois croire et espérer dans la promesse de Dieu de libérer les captifs, de devenir libre du péché. Sinon, toi aussi tu périras dans le désert spirituel sans jamais entrer dans la terre promise, le ciel. Ne sois pas comme les Juifs qui dirent qu'ils ne pouvaient pas vaincre les géants et refusèrent de traverser le Jourdain pour combattre, même avec Dieu combattant pour eux, Ne dis pas que le péché ne peut pas être vaincu, même avec l'aide promise de Dieu, ne dis pas « qui peut faire la guerre à la bête ». Car la victoire sur le péché, nos ennemis au-dedans de notre cœur, est le salut promis. Afin qu'il nous accordât, étant délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, dans la sainteté et la justice devant lui, tous les jours de notre vie. Luc 1, 74-5 La seule loi des 10 commandements qui soit une ombre de Christ, la réalité, est le 4e commandement, concernant 6 jours de travail, et le 7e à sanctifier sans travail. Ce n'est pas une loi morale écrite sur le cœur de tout homme dans le monde. Tout homme dans le monde se sent mal quand il vole, tout homme qui ment sans sa conscience le piquer, tout homme se sent mal quand il déshonore ses parents, mais on ne peut pas en dire autant du fait de garder le 7e jour comme jour saint et jour de repos. Il existe des peuples sur la terre qui ne suivent même pas les jours selon la semaine. Le 4e commandement ne fait pas partie du noyau moral de la loi inclus dans la loi intérieure du cœur de l'homme, et les hommes ne sont même pas jugés sur les 10 commandements. Les hommes sont jugés sur la loi écrite dans leur cœur, et leur conscience en rend aussi témoignage, tandis que leurs pensées les accusent ou les excusent. Rome 2:15. Le sabbat a clairement été remplacé par le repos chrétien, dans lequel un homme cesse ses propres œuvres issues de sa volonté, pour ne faire et ne dire que ce qu'il reçoit comme direction et comme puissance de Dieu. Ceux qui croient l'évangile de la délivrance de la servitude du péché, de l'entrée dans le royaume de Dieu et de l'union avec Christ et Dieu, entrent partiellement et immédiatement dans le repos de leurs travaux. Ils commencent aussitôt l'œuvre de porter la croix, d'attendre Dieu et de se repentir de toute conduite dont ils sont convaincus ainsi, ils ont commencé le repos de leurs anciennes œuvres et poursuites. À mesure qu'ils sont transformés pour devenir purs et rachetés de toute iniquité par la grâce de Dieu, ils s'assoient avec Christ, et ils sont dirigés et fortifiés par Dieu pour accomplir des œuvres d'amour afin de montrer au monde l'amour et la puissance de Dieu. Voilà le glorieux repos chrétien, dont le 4e commandement n'était qu'une ombre et qui est clairement obsolète. Fox a écrit au sujet du jour du sabbat et de la loi en général, « Christ est ressuscité d'entre les morts le premier jour de la semaine, et ceux qui croient en lui sont entrés en Christ, leur repos, les chrétiens se rassemblent pour adorer Dieu le premier jour de la semaine, et c'est le premier jour de la semaine que Dieu a dit, que la lumière soit, et la lumière fut. » L'apôtre dit, « Le corps, c'était Christ, et le sabbat était un signe et une ombre des biens à venir, ainsi cela accomplit les paroles de Moïse. » Le corps est Christ, le sabbat est un signe, ainsi les biens étant venus, Christ la réalité met fin à l'ombre au signe, et Christ est ressuscité le premier jour, jour où les saints se réunissaient, et l'apôtre n'appelle pas cela un sabbat, ni n'établit l'autre sabbat parmi les chrétiens, ni ne leur dit de le garder, comme on le lit où que ce soit. Car si ce jour avait été observé comme au temps de la loi, le 7e qui signifie la perfection, l'apôtre en aurait parlé quelque part, car les choses observables étaient souvent mentionnées dans la loi et l'évangile, mais ceci n'est mentionné nulle part, ni au sein qu'il devrait garder le 7e jour comme un sabbat, car des offrandes étaient faites ce jour-là. Mais les offrandes ayant été changées, la loi aussi a été changée, et l'offrande, Christ Jésus, étant venu, la loi est venue à être au-dedans, et la circoncision au-dedans, et Christ, le repos, est le Seigneur du sabbat, et le repos pour le peuple de Dieu. Celui qui maintient les sabbats et les offrandes maintient la circoncision et les œuvres, et ainsi empêche les gens d'aller au corps et à la tête, dans les signes et les ombres, et ainsi dans les œuvres de la loi, que la loi commande. Christ n'est pas venu pour abolir la loi, l'apôtre a dit que la loi était bonne à sa place, et il l'a établie, pourtant l'apôtre dit que le sabbat était une ombre, mais le corps était Christ, et il les amène à la loi dans le cœur, dans l'esprit, et là il l'a établie. Christ n'est pas venu pour en briser un iota ou un trait, mais remarquez pour l'accomplir, et il a dit, « Pas un iota ou un trait de la loi ne sera brisé jusqu'à ce qu'il soit accompli. » Christ, qui est le repos pour le Juif, qui avait le jour du sabbat un signe de repos, a souvent donné le repos ce jour-là à ceux qui étaient liés, chargés ou fatigués ce jour-là, et Christ, qui leur a donné le repos ce jour-là, et l'apôtre, qui établit la loi, qui était bonne à sa place, ni l'un ni l'autre n'ont ordonné de garder le jour du sabbat. Christ ne dit pas « le jour du sabbat doit être gardé » et après lui, l'apôtre ne le commande nulle part, mais dit que c'était une ombre et que le corps était Christ. Ainsi ceux qui vinrent au corps, Christ, au jour des apôtres, étaient venus à la fin des ombres, en ce temps-là en leur jour, et à titre d'exemple, vous pouvez le voir, certains observaient un jour, d'autres non, et ils ne devaient pas se juger les uns les autres sur ces choses. Christ donnant le repos ce jour-là, où le peuple devait se reposer, était une figure du repos éternel et de la restauration. Celui qui faisait l'œuvre de Dieu ce jour-là et donnait le repos aux chargés ce jour-là signifiait un repos intérieur, car Christ était le repos, et le Seigneur du sabbat, le repos pour le peuple de Dieu. Ceux qui célèbrent le jour du sabbat doivent célébrer ainsi et vivre dans l'ombre qui les tient éloignés du corps et ainsi de l'Église dont Christ est la tête. Ceux qui célèbrent les sabbats doivent aussi apporter leurs offrandes, et alors ils doivent avoir le premier sacerdoce pour offrir et insigner le corps qui fait la volonté de Dieu, le sacerdoce éternel et l'offrande unique, et s'en tenir à la première alliance qui doit disparaître, dans laquelle ces choses se tenaient, et nier l'alliance éternelle, et celui qui a effacé les ordonnances et mis fin aux types et aux ombres. Christ est la fin de la loi pour quiconque croit en chaque iota, trait et détail, et des signes et des ombres que la loi maintenait, Christ en est la fin. Toutefois la vie de la loi, la puissance demeure, bien que les ombres et choses extérieures changeantes prennent fin, le corps de Christ est ce qui met fin à toutes. Il existe sur ce site d'abondants écrits supplémentaires de George Fox, car il a réfuté un livre entier promouvant le sabbat du septième jour pour les chrétiens. Quel que soit votre jour de culte, prenez garde qu'il ne soit guère plus qu'un jour de loisir, avec un arrêt minute pour le culte. Il vaut mieux adorer tous les jours, dans un repos vis-à-vis des travaux du monde, à savoir la poursuite de ce que nous mangeons et de ce que nous portons. Cependant, comme William Penn l'a écrit, ne sabbatisez pas votre jour de culte, autrement dit, n'imitez pas les restrictions du sabbat juif sur votre jour de culte. Au contraire, reposons-nous de nos anciens travaux chaque jour, et travaillons plutôt pour la nourriture spirituelle qui ne périt jamais et travaillons pour sa justice en faisant ce qui suit. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu, et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. John 6, 27, le pain qui descend du ciel, le vrai pain quotidien. John 6, 27, 33, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » John 6, 35, les paroles que je vous dis sont esprit, et elles donnent la vie. John 6, 63, la loi a été donnée aux descendants déchus d'Adam, qui avaient perdu la direction et la vie de Dieu, lorsqu'un homme a été transformé par la puissance de Dieu pour marcher dans l'amour comme Dieu le lui inspire, aucune loi n'est nécessaire et aucune loi ne s'applique. Quand vous marchez comme Dieu vous l'inspire, vous accomplissez la loi, vous marchez au-delà de la conformité totale à la loi parce que, évidemment, Dieu ne va pas vous commander de faire quoi que ce soit qui viole sa loi, et vous ne marchez pas selon la contrainte, mais selon une direction, afin de dire et de faire les choses vertueuses que Dieu vous inspire de dire et de faire. Ce n'est que lorsque vous êtes guidé par l'Esprit de vie en Christ Jésus, l'Esprit vous inspirant des pensées, des paroles et des actes, que vous pouvez revendiquer l'écriture de la liberté, car la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 2. Pour être affranchi de la loi, vous devez d'abord être restauré à l'image spirituelle de Dieu, en dépouillant le corps des péchés de la chair par la circoncision de votre cœur, la circoncision de Christ, pour cela, la loi est morte. Comme James Pownell l'a si bien exprimé dans ses mémoires, et ainsi l'Église du Christ est rassemblée par un seul esprit, et par le même circonciseux et baptisée dans une seule vie, une seule lumière et une seule puissance, où tous demeurent comme membres d'un seul corps, dont Christ est la tête. Et voici l'union et la communion bénies en un seul, et ici Dieu est adoré en esprit et en vérité, et comme Christ est spirituel, ainsi son Église, qui est son corps, ainsi le sont ses ordonnances. Et voici les vrais chrétiens, non pas ceux qui n'en ont que l'imagination, mais ceux qui peuvent en être témoins attester la réalité et les posséder en vie. Eux qui croient sont passés de la mort à la vie, et la vie qu'ils vivent maintenant, ils la vivent par la foi au Fils de Dieu. Ils sont de nouvelles créatures qui sont en Christ Jésus, pour lesquelles il n'y a aucune condamnation, qui ne marchent pas selon la chair mais selon l'esprit. Contre de tels, il n'y a point de loi, car ils ont été transportés hors de cette nature pour laquelle la loi a été ajoutée. Et ils ont été rendus libres par la loi de l'Esprit de vie, et sont rendus participants de la nature divine de Christ, par laquelle ils. Et ceux-ci témoignent maintenant de l'effet du sang du Christ opéré au-dedans d'eux, et du but de sa venue, et du bénéfice de sa mort, eux qui sont morts avec lui et ressuscités par la mort de la croix. Et ce sont ceux qui ont échappé aux souillures du monde par la connaissance du Fils de Dieu au-dedans d'eux, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.